Vous écoutez Radio Okapi, émettant de Kinshasa. Nous mettons à votre disposition l'information sportive nationale et internationale. Une équipe de 4 journalistes reporters se transforme l'actualité dans ses moindres détails. Des enquêtes, des reportages, des directs, des journaux en synthèse et 4 heures non-stop de tour de correspondants chaque dimanche. Radio Okapi, l'info, c'est aussi le sport et au passé.
081 890 63 77, c'est pour les appels, pour que vous participiez à cette émission, et le 081 070 20 50 pour les SMS. Nous avons dans ce studio Théodore Lokakao, chargé d'études en environnement au ministère provincial du Plan et Travaux publics pour la ville de Kinshasa. Monsieur Théodore, encore bonjour.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, on parle des inondations. Nous les avons observées d'ailleurs lors des dernières pluies enregistrées sur la ville de Kinshasa. Est-ce qu'on peut dire que les inondations ont quand même des causes, hein? Qu'est-ce qui serait à la base de toutes ces inondations?
Les causes des inondations, si nous prenons le cas de la ville de Kinshasa, sont multiples. Premièrement, avant de parler de ces causes, j'aurais voulu définir les concepts d'inondation. L'inondation peut être définie, selon plusieurs auteurs, comme une éruption d'eau souterraine normalement sec, une submersion par l'eau débordant du lit normal d'un cours d'eau, ou une accumulation d'eau provenant des drainages des zones qui ne sont pas normalement submergées. Alors, il s'agit d'une situation temporaire qui peut être dommageable, par exemple destruction des habitations, ou bénéfique, par exemple, apport d'alluvions fertilisantes. C'est le cas du fleuve Nil. Alors, pour le cas de la ville de Kinshasa, les causes des inondations sont multiples. Nous avons le bouchage des caniveaux par le sable et les ordures, l'absence des caniveaux dans les nouveaux quartiers lotis, augmentation de la surface bâtie de la ville sans extension du réseau d'assainissement des eaux pluviales, l'occupation anarchique du sol, surtout dans les zones collinaires, les constructions anarchiques sur certains tronçons des caniveaux égouts, le manque d'entretien des caniveaux existants, la remontée de la nappe aquifère survenant à la suite de la saturation du sol en eau, soit par un apport direct, donc l'eau des pluies, soit par un apport indirect, le ruissellement des eaux de pluie à partir des versants collinaires lors de fortes pluies.
Oui, aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a même des communes ou des quartiers qui autrefois ne connaissaient pas des inondations. Ils sont aujourd'hui dans les jeux comme dans d'autres communes.
Oui, ces quartiers-là, si nous prenons l'exemple de quartier, par exemple, Kinabois, quand nous allons vers le quartier Ndanou, nous trouverons que c'est une zone déjà inondable. Mais les gens ont occupé ce sol sans que de mesures appropriées soient prises pour que les eaux puissent être canalisées vers l'église.
Généralement, ce sont des maisons qui longent les fleuves.
Oui,
la nappe vers le...
oui, il y a, des zones dans la ville où la nappe aquifère n'est pas très profonde. Donc, dès qu'il y a une pression du sol, des habitations sur le sol, sur la nappe aquifère, il y a des remontées capillaires, qui vont se faire. Donc, il y a lieu de pouvoir faire le rabattement des nappes avant d'occuper ces gens de terrain, ou alors de les compacter et puis de faire des canalisations pour que les eaux souterraines de la nappe ne puissent pas remonter et submerger ces espaces. Surtout s'il pleut abondamment, la nappe étant, le terrain étant saturé, l'eau ne pouvant plus s'infiltrer dans les sols, et il y a éventuellement des stagnations d'eau qui sont observés.
Oui, ben pour le cas de Kinabois, ça se justifie, oui. Mais prenons le cas de Saint-Jean, l'ancienne commune de Saint-Jean. Oui. À l'époque, il y avait des égouts, des égouts pluviaux.
Oui.
Aujourd'hui, qu'en est-il?
Le problème aujourd'hui, c'est l'entretien. L'entretien de ces canalisations, de ces collecteurs d'eau qui sont bouchés par les ordures, l'entretien n'est plus régulier, soit il y a des habitations qui sont sur ces égouts, donc on ne sait pas entretenir ces égouts. Il faut aussi compter avec une certaine éducation de la population qui est nécessaire dans ces cas-là. Donc c'est ce qui fait que les eaux n'étant pas correctement évacuées ne peuvent que stagner sur ce terrain.
Oui, mais donc aujourd'hui nous assistons à la modernisation, par exemple, de la route de Moussy.
Oui.
Moussy est dans la commune de Saint-Jean, donc la commune
oui.
de Linguala.
Oui.
Mais si on ne tient pas compte de l'entretien de ces égouts,
oui.
Ou peut-être de boucher, parce que ce sont des égouts qui sont bouchés.
Oui.
Voilà, si on n'y travaille pas, tout le travail qu'on est en train de faire là, je crois que c'est en vain.
Ben,
parce que la solution ne sera pas trouvée. À chaque fois, les habitants de Linguala seront toujours sous l'eau.
Oui, bon, la préoccupation majeure dans cette construction de la route, c'est d'abord permettre la circulation facile des automobilistes. Mais quant à l'assainissement urbain, c'est un problème plus vaste. C'est-à-dire que ça ne doit pas être résolu de façon ponctuelle. On doit voir dans l'ensemble quels sont les réseaux existants, les goûts, qu'est-ce qu'il faut ajouter, qu'est-ce qu'il faut corriger pour que, compte tenu de l'augmentation de la surface bâtie, donc l'imperméabilité du sol étant augmentée par la construction ou les constructions, il faudra alors tenir compte de ces différents paramètres pour pouvoir mettre en place un réseau qui répondrait à la situation actuelle.
Donc aujourd'hui nous assistons, c'est comme si la route elle est maintenant à hauteur,
oui.
et les maisons sont restées en bas. Et nous avons remarqué que lors de la dernière pluie, il y a eu vraiment une forte inondation, tous les quartiers, je pense que tous les quartiers, nous avons parlé aussi de Kimpanseke,
oui.
mais le camp Pelsé,
oui.
le camp Pelsé, voilà l'ancien camp de plantation aujourd'hui ils sont vraiment inondés, contrairement à l'autre fois.
Bien sûr,
donc on n'a pas tenu compte de ces paramètres.
Bien sûr, celui qui a fait le projet de construction de la route devrait tenir compte de l'évacuation correcte des eaux pluviales, en tenant compte de l'environnement. Donc le projet n'a pas intégré l'environnement autour duquel il devait se faire. Alors vous comprenez que parfois c'est à nous maintenant de vérifier la faisabilité de ce genre de projet et de corriger s'il y a lieu.
Alors parlons de Kimpanseke, parce que lors de la dernière pluie, il y a eu des dégâts matériels au niveau de Kimpanseke. Vraiment tous les quartiers, beaucoup de quartiers de Kimpanseke ont été vraiment inondés. Est-ce qu'on peut avoir une explication, parce que c'est pas quand même Kimpanseke, c'est pas seulement Kimpanseke.
Donc c'est ce que j'ai dit là tout à l'heure. Alors, dans ces...
Là, il n'y a pas un problème de nappe.
Oui, il y a toujours un problème de nappe. Hein. Quand vous prenez tous ces différents quartiers-là, vous prenez, disons, Barumbu, Kinshasa, Linguala, vous allez vers l'est, Massina, Kimpanseke, Njili, ce sont des zones ou des communes qui sont dans la plaine et dont la nappe n'est pas très profonde. Donc, si la saturation de la nappe se fait, vous verrez que ce genre de phénomène s'observe après deux ou trois mois de pluie, et surtout après le mois le plus pluvieux, le mois de novembre. Donc après des fortes pluies, la nappe étant saturée, l'eau tend maintenant à se ruisseler, à s'écouler en surface. Et si elle ne trouve pas des canalisations qui peuvent les guider vers les égouts naturels, donc les cours d'eau ou les rivières de la ville, à ce moment-là, elle va chercher à aller dans n'importe quel sens. Je vous donne le cas de Massina. Le cas de Massina où j'ai personnellement fait une étude sur l'évacuation des eaux pluviales dans le quartier de Zouambombo, vous verrez que c'était le même problème. Donc, ce n'est pas un cas comme, Linguala, mais là, vous aviez une zone où les eaux stagnaient parce qu'elles n'étaient pas évacuées, et ça a détruit beaucoup de maisons d'habitation. Et en faisant cette canalisation, on est arrivé à évacuer ces eaux, et aujourd'hui, les gens sont revenus réoccuper leurs parcelles. On a maintenant remblayé, on a compacté. Vous y allez derrière le marché de la liberté, vous verrez que
ce que je rappelle, autour des années 88, il y a eu un cas d'inondation à Kisangani, tout autour du port. Quand vous voyez des habitations qui longent le fleuve, vers la cathédrale catholique, il y a eu une forte inondation à l'époque en 88. Mais c'était dû à quoi? Comment le fleuve, disons, le lit était débordé?
Bon, là, c'est un problème aussi des sacros fluviaux. Donc, on a des phénomènes exceptionnels de pluie sur plusieurs jours,
qui se suivent, le niveau d'eau va augmenter. Et là, c'est au niveau des statistiques, il y a des phénomènes qui reprennent après un certain nombre d'années. Donc tout ça, ça doit être planifié, étudié, et on doit avoir au niveau de ces différentes villes une commission de gestion des catastrophes où vous trouvez les urbanistes, les environnementalistes, les météorologistes, les climatologues qui peuvent aider la ville à gérer ce genre de catastrophes.
Nous prenons l'exemple de Goma, géographiquement parlant. Oui. Vous êtes juste à la frontière, donc à la frontière entre Gisenyi et la ville de Goma. Oui. Vous remarquerez de l'autre côté de Gisenyi, les maisons sont construites en regardant donc en face du lac. Oui. Mais tandis que du côté de la RDC, les maisons donnent d'eau au lac. Est-ce que cette construction, un cas par exemple d'inondation ou que le lac débordé de son lit, ça peut créer des dégâts? Je crois qu'au niveau de la RDC, ça sera pire qu'au niveau de Gisenyi.
Mais là, c'est aux urbanistes que peut-être la réponse pourrait venir. Je ne sais pas pour quelle raison ils ont dû construire de quelle manière ces habitations. Mais de toutes les façons, si des précautions sont prises pour parer à d'éventuels risques hydrologiques de ce genre, le problème ne se poserait pas. Donc, le problème majeur, c'est de pouvoir prévoir des canalisations, des ouvrages, d'évacuation des eaux en cas de risque. Donc, si les précautions sont prises, le risque ne peut pas se poser.
081-890-63-77, c'est pour les appels.
Chaque samedi à 8h30, Radio Café vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique. Chaque samedi à 8h30, Panorama économique sur Radio Café pour anticiper les mauvaises surprises et profiter de bonnes occasions.
Nous sommes là avec vous, Théodore Lokakao, chargé d'études en environnement au ministère provincial du Plan et Travaux Publics pour la ville de Kinshasa. Vous avez dit, vous nous avez parlé des causes des inondations. Nous retenons que généralement, on a des cas d'inondation à chaque fois que les égouts sont remplis à capacité.
Oui, sans s'assurer des déchets ou de du sable, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire leur rôle, jouer leur rôle pleinement, d'évacuer les eaux qui viennent. À ce moment-là, les eaux vont chercher à divaguer sur le terrain, ou alors à stagner.
Alors, comment on va prévenir ces inondations? Je prends, c'est vrai, il y a une politique générale qui doit être initiée par les autorités, mais au niveau local, au niveau de la population, quel est le comportement que doit avoir la population pour éviter ce genre d'inondations? Parce que nous remarquons, il y a des égouts, par exemple, sanitaires, qui sont aussi parfois bouchés, qui peuvent aussi être à la base des inondations.
Oui, bien sûr. La population doit être sensibilisée à comprendre qu'elle a intérêt à ne pas jeter toutes les ordures ménagères et autres dans les caniveaux. Jeter du sable dans les caniveaux. Et surtout, chaque parcelle doit veiller à curer le caniveau qui est devant la parcelle. Comme ça, le caniveau sera toujours dégagé. Et s'il y a plus, les eaux peuvent s'écouler tranquillement vers l'exutoire naturel. Et là, vous n'aurez pas de cas d'inondation. Mais si les eaux ne savent pas où aller, ils vont stagner, et à force de stagner, ça va créer des dommages sur l'endroit.
Donc, il faut demander à la population de travailler à quel rythme? Deux fois la semaine? Une fois la semaine? Ou deux fois le mois?
Non, c'est surtout pendant ou avant la période pluvieuse, c'est-à-dire au début du mois de septembre. C'est ce travail-là, et même pendant le mois de pluie. Force, par exemple, le mois de novembre, nous avons le mois d'avril, où les pluies sont plus régulières et plus fortes. Vous avez observé combien de pluies on a eu très intenses, avec tous les dégâts que la ville a connus.
Oui, ben alors, au niveau maintenant de grandes rivières, ou des rivières que compte la ville, là, c'est le travail de services urbains.
Oui, là, c'est le travail de la régie d'assainissement et travaux publics de la ville, qui doit curer sur les rivières régulièrement pour que les lits ne soient pas très remontés, de sorte que ces lits puissent accueillir suffisamment d'eau qui seront évacués de part et d'autre des berges.
Mais là aussi, il faudrait que la ville s'emploie à quel rythme?
Ben, c'est surtout avant
les saisons de pluie,
qu'on puisse curer ces rivières, et même pendant la période. Si on doit faire une certaine observation régulière du niveau d'eau dans ces rivières.
Donc si on entretient des réseaux de goût public, on se mettra à l'abri des inondations.
Oui, on se mettra à l'abri des inondations, mais le problème dans la ville de Kinshasa, c'est que les réseaux d'assainissement pluvial ne couvrent pas toute la ville. C'est surtout les anciens quartiers, avant l'indépendance, où on trouve un réseau d'égouts d'assainissement, où les nouveaux quartiers, vous avez Cité Verte, Maman Mobutu, Salongo, mais le reste, l'occupation anarchique étant, on n'a pas pu mettre en place les infrastructures de base nécessaires pour que la population vive dans les meilleures conditions.
Oui, alors aujourd'hui, c'est l'entrée de Gilly, qui, en tout cas aussi, ne connaissait jamais ce genre de problème. Deuxième entrée de Gilly, aujourd'hui, c'est difficile d'y passer, hein. C'est vraiment un fleuve. Après, c'est la même pluie.
Oui, mais quand même, les réseaux d'évacuation des hôpitaux est prévu. Je crois que c'est pas tellement difficile comme tel, parce que j'habite dans le coin et tout le matin je passe par là. C'est vrai qu'il y a des petites flaques d'eau par-ci par-là, mais dès que la route sera complètement achevée, je crois qu'il n'y aura pas de problème.
Oui, mais parce qu'il y a un auditeur qui vient de nous appeler pour dire que la dernière pluie, c'est vraiment le fleuve. Je ne sais pas si vous êtes passé.
Bon, le fleuve, je ne sais pas. Quand il parle fleuve,
c'est. Ah bien, vraiment, il y a beaucoup d'eau, vraiment beaucoup d'eau.
Qui n'ont pas pu être
évacués. Qui n'a pas été évacué.
Bon, là, je souhaiterais en faire une descente personnelle sur le terrain.
Ok. Alors, parlons également de la rivière Calamo. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est la chanson à chaque pluie. On parle de cette rivière. Quelle est la solution pour prévenir vraiment des inondations pour les habitations qui sont, aux alentours, aux environs de cette rivière?
Bon, le problème de la rivière Calamo, si je peux le dire, et le suivant. Cette rivière tire sa source des zones collinaires vers Selembao, Ipen, où ces collines sont érodées par les eaux de pluie et ça arrive de la lave torrentielle, donc de l'eau contenant de la boue, du sable et tout ça, qui descend sur, disons, dans cette rivière et augmente le niveau du lit de la rivière. Cela empêche que toutes les eaux puissent rester dans le lit de la rivière et déborder. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, les habitants de ces différentes berges, sont juste à côté de la rivière et jettent l'air dessus dans la rivière. Donc, la rivière est devenue une poubelle. Hein, c'est là, se voit comme
une mauvaise pratique.
Une mauvaise pratique, non, un mauvais comportement social. Et si vous arrivez au niveau Sonic Akuta, là, vous verrez combien de bouteilles flottent, de plastique, de déchets flottent, tout ça. Tout ça, c'est à partir de ce que les gens font en amont.
Ok, oui, au niveau de Saint-Louis, vous êtes à Saint-Louis.
C'est la même
chose. Voilà, disons, juste à la bretelle,
oui.
Saint-Louis, le boulevard, c'est pas moi, Lambeau-Macadie. Voilà, à ce niveau-là, on a même remarqué que le niveau des lits est très, très haut. Donc, est très haut, et puis bon, ça se confond même avec la route.
Avec
le pont, quand il pleut, c'est invisible, on n'a pas le pont. Alors là, maintenant, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les inondations?
Normalement, la mesure qui.
Et comment doivent se comporter les populations environnantes pendant la pluie?
Le problème maintenant, c'est. La ville peut faire un travail de curage régulier de cette rivière. Mais comment le faire? Parce que les habitants sont juste le long de berce.
Donc il faut vraiment détruire,
l'idéal serait d'évacuer ces populations pour que le matériel d'assainissement puisse passer. Hein, on peut passer avec des appareils, des engins lourds pour pouvoir curer cette rivière, mais où faire? Il y a des habitations. Le faire à la main, ça n'aura pas un impact.
081-890-63-77, c'est pour les appels, et si vous nous rejoignez, bienvenue sur Okapi.
Congolaise, Congolais, voici un message concernant la révision du dossier électoral. Que faire en cas de perte ou de vol de la nouvelle carte d'électeur pendant la période de fonctionnement du centre d'inscription?
Le demandeur se présente devant le président du centre qui lui fait remplir une demande de duplicata au vu du procès verbal de perte de pièces délivrée par un officier de police judiciaire ou au vu de l'attestation de perte de pièces établie par un officier d'état civil.
J'ai ma nouvelle carte d'électeur. Je voterai. Et tout?
Nous avons le premier auditeur en ligne, Danis de Manono. Bonjour Danis. Voilà, vous nous appelez de Kananga, du Katanga. Et Manono. Voilà, donc Manono, vous nous appelez du Katanga. Alors, quelle est votre préoccupation? Voilà, Danis sort. Voilà, Danis, nous prenons d'abord, on va vous récupérer peut-être après. Amici, vous êtes à Kindu, bonjour Amici.
Bonjour JR, bonjour à l'invité, bonjour à tous.
Bonjour. Vous allez bien?
Oui, oui, ça va bien malgré la pluie ici chez nous.
Voilà, espérons qu'il n'y aura pas d'inondation. Et quelle est votre préoccupation?
Oui, je voudrais demander à l'invité qu'il nous dise, au cas où nous vivons les inondations, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que ici chez nous à Kindu, un quartier qui souffre des inondations, c'est le quartier 3Z. Où il y a un grand pompier bouché. Et quand les eaux viennent, ils ne trouvent pas l'endroit où passer. Et en dessous de ce pont-là, devant, on a construit des maisons. Et ça demande les fonds sociaux pour financer, pour que ces fonds soient réhabilités. Et nous, la population, nous n'avons pas ces moyens-là pour canaliser ces fonds. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que chaque fois qu'il pleut ici chez nous, nous vivons les inondations. Nos amis, là, nos compatriotes souffrent des inondations. Qu'est-ce que nous devons faire? Donc, dès qu'il pleut, ils sont appelés à dégager. On ne sait pas qu'est-ce qu'il doit nous proposer au moment où nous vivons les inondations.
Alors, Théodore, le meilleur c'est l'idéal, c'est quoi? C'est dégager définitivement?
C'est un problème social, toujours. Hein? Donc, il y a...
Avant de vous répondre, j'aimerais bien qu'on puisse relancer à nouveau Danis de Manono, voir si comme ça on répond une fois pour toutes. Et Danis, vous êtes avec nous? Bonjour Danis. Danis? Voilà, donc le temps pour nous, au niveau de la réalisation, qu'on puisse la relancer. Monsieur Théodore Loukakaor, voilà, au niveau des Kindu. Il y a un pont qui pose problème et les habitants qui sont tout autour sont obligés à chaque pluie de dégager et de vider les lieux. Dans la donc, tu leur demanderais quoi? Qu'est-ce que vous voulez comprendre?
Bon, le problème, c'est de savoir, lorsqu'on a construit ces ponts, c'était en tenant compte des écoulements de l'eau. Alors, maintenant que le pont n'arrive plus, disons, les eaux n'arrivent plus à s'écouler normalement, je crois, si j'ai bien compris, il va y avoir des constructions à cycler. Et si la construction n'a pas cessé, c'est aussi que la population n'a pas respecté les mesures réglementaires quant à l'occupation du sol. Alors, les conséquences sont là. Maintenant, on dit l'État a une demande au pouvoir public de résoudre des problèmes. Mais résoudre des problèmes, elle peut contraindre le pouvoir public à prendre des mesures temporaires visant à interdire l'occupation de cet espace afin de pouvoir remédier à ce problème. Est-ce que la population est prête à accepter ce genre de mesures?
C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Mais alors, en ce moment, c'est vrai, si ce n'est que ça comme solution idéale, mais en attendant, quelle est la solution palliative pour que qu'on prévienne les inondations? Parce que la population est encore là.
Oui.
Hein? Et la population, elle est encore. Comment elle doit se comporter pendant la pluie et avant la pluie, avant la saison de pluie?
Oui, ça dit que c'est toujours l'éternel problème des curages. Donc, on doit veiller à curer régulièrement ces cours d'eau pour que les lits soient assez profonds et puissent permettre la caille des eaux pluviales qui vont tomber.
Donc la population doit éviter de jeter les ordures.
Les
ordures. Oui. Parce que là, ça va encore compliquer les choses, ça va empêcher le ruissellement normal. Par exemple, voilà, l'eau ne sera pas évacuée normalement, ça posera toujours des problèmes.
Donc, il y a lieu que dans ce genre de quartier, un comité local de développement puisse prendre en charge les problèmes et sensibiliser les habitants afin de ne pas tomber dans ce genre de comportement.
Théodore Loukakaor, nous rappelons que vous êtes le chargé d'études en environnement au ministère provincial du plan et de travaux publics pour la ville de Kinshasa. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Oui,